effectivement, Dominique et Jean Gadret se heurtent directement à tout l'appareil qui dit, bon, bah, écoutez, c'est des vibrations, finalement, vous reprenez un débat qu'il y a eu au 18e, etc. Et moi, justement, leur point de vue, mais avec ce que j'appellerais une perspective réaliste. La perspective réaliste, ça veut dire d'essayer de caractériser les modes de croissance, d'abord de dire que la productivité, c'est quantile, simplement, il est défini et recherché à chaque période. Et c'est en fonction de ça, si vous voulez plus suivre, c'est un peu ce que dit Dominique quand elle dit, vous voyez, dans les entreprises, la fin est en complète congruence avec ce que je vais raconter, qui est simplement le détail du petit point théorique que j'avais fait dans la lettre de la régulation. L'air de rien, c'est dans la lettre de la régulation, c'est ce qui est le plus discuté, tous les mots entre nous, au moins. Donc ça finit par être dense et peut-être dur à lire. Donc je me suis dit en relisant que ça peut être pas mal que je donne un peu d'aération au texte, mais je vais m'en tenir à peu près à ça. Et vous voyez que la perspective est inversée, c'est-à-dire qu'on va dire comment on évolue. On va prendre le parti suivant, c'est que non seulement chaque régime de croissance est comptable, qui sont des conventions et qui vont évoluer. Donc ce que je vais regarder dans le débat, par exemple, entre Dominique et Gadret et puis les gens de l'INSEE, c'est où bouge la frontière. Dans cette perspective, il est intéressant de voir où se trouvait la frontière, justement dans la comptabilité keynésienne. Et je crois très fortement que, finalement, le plus intéressant, parce que c'est tout, pour le voir en termes de combat, il n'y avait aucun problème sur tout ce qui était justement de l'ordre du mesurable. Le grand enjeu de la comptabilité keynésienne, c'est le non-marchand. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique, il y a une légitimité de l'action d'État, d'intervention du public, et lui n'est pas dans la comptabilité. Et tout va se passer autour de comment on le rentre, plus ou moins bien, etc. Donc, ça déplace un peu les enjeux. De nos jours, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être effectivement peut-être ce qui ne va pas être dans cette comptabilité, même si on l'étend, ça va être des choses qui vont toucher à certaines régulations immatérielles. Et je dois dire aussi, ça va être des choses qui vont toucher à des régulations internationales. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu le grand absent. Et c'est pas mal d'ailleurs faire de Osberg et Sharp. Parce que moi, ce que je trouve fantastique, c'est que Osberg et Sharp, qui ont produit un indicateur qui a, je pense que c'était les premiers à le faire, comme caractéristique de bien-être, une idée, un impact sur la distribution. Donc, et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont validé dans leurs mesures, dont vous comprenez, ils ont introduit cette dimension qui est énorme, et c'est discuté quand même à l'OCDE, et ça devient très intéressant. Mais là, on est au niveau des grands arbitrages. Donc, il faut voir un peu tous les niveaux d'arbitrage. C'est-à-dire non seulement ceux qui vont s'insérer dans le débat international, mais ceux qui, comme tu le disais très bien, vont participer de ce micro-macro. Mais quand tu cherches ce micro-macro, ça veut dire que contrairement à ce que disait Jean Gadret là-dedans, tu te mets bien dans la position d'une reconstruction de la notion de productivité avec un schéma assez classique, simplement la productivité n'est plus celle que nous croyons ou celle que nous savions mesurer. Bon, vous avez un peu la philosophie. J'ai pas mis grand-chose, j'ai mis... ça va me servir un petit peu de guide bête, si je puis dire. J'ai mis les grands titres que vous allez pouvoir, puis je vais les commenter. Je n'ai pas eu le temps, et d'après les limites de temps qui nous ont été imparties, j'ai pas de données, et j'ai pensé que malgré tout, elles étaient toutes dans le débat. Les grandes données du débat, ce sont celles qui mesurent l'imprécision. Parce que ces grands comptables nationaux, ils ont une position qui est difficile à faire, difficile à tenir. Parce que ce sont les mêmes, par exemple, ces Zwiermet aux États-Unis, à une phase critique, le milieu des années 90, qui dit à peu près la moitié de la production n'est pas mesurable. Et pourtant, ils vont avoir une vision extrêmement restrictive de ce mouvement de frontière. Ils vont avoir une acceptation hédonique et pas du tout collective. On va interroger les personnes, on va rester dans une vision libérale étroite, on va demander aux individus combien ils paieraient pour avoir un, et on va aux marges essayer de monter un petit peu. Et le rapport Boskin, que Jean a parlé, on s'était intéressé avec Jean à peu près à la même époque à cette affaire, il est bien quand on le resitue dans son contexte politique. C'est pas du tout un rapport qui vient mesurer des choses, c'est un rapport qui a des enjeux, c'est un combat sur la fiscalité. Et au cœur de ce combat sur la fiscalité, on se dit, mais est-ce que nos indicateurs qui font de la répartition sont fondés ou non ? Donc moi, ce que j'aime bien dans cette discussion, et c'est pour ça que je dis que j'aime une perspective réaliste, c'est pas tellement de se dire, on va mesurer tout le patrimoine, etc. C'est de repérer les champs de combat qui arrivent à ça, qui arrivent à repousser. Or, pour des économistes, ça a une notion relativement simple, c'est reconnaissance des externalités, d'un certain nombre d'externalités, internalisation et en fonction
de... extension du nombre des parties prenantes, quoi, en quelque sorte. Bon, j'ai à force de résumer, j'ai presque fini. Vous en donnez la synthèse générale, j'ai presque fini. Donc c'est bien, hein, hop là, voilà. C'est bien une remise en question. Alors, les actionnistes sont des passéistes, il faudrait qu'ils lâchent la notion de productivité pour nous envoyer. Alors, par rapport à ça, moi je dis qu'en ayant la même posture sur l'inadéquation, on peut essayer de travailler, non pas à la reconstruction, il y a toujours l'idée d'être seul dans son coin, de faire tout ça, mais de suivre un nombre de combats sociaux par rapport à cette idée de reconstruction, de l'idée de l'intégration de ces variables. Alors, ne serait plus adapté. Pourquoi elle serait plus adaptée? Alors, la financiarisation, effectivement, a eu un effet terrible, puisqu'elle a mis un court-termisme énorme. Elle impliquait des nouveaux rapports de concurrence qui ne sont pas sans ambiguïté, hein, moins centrés sur les prix, mais centrés sur la qualité, ce qui en soi même, parce qu'il y a des notions de capital, va être contradictoire avec ce qu'implique la financiarisation. C'est pour ça que les choses... Et que personnellement, dans la lecture du régime de croissance déterministe dans la façon de faire, je regarde moins la financiarisation dans son court terme que cette transformation des rapports de concurrence. Alors, à chaque régime son usage, c'est toujours une schématisation. Alors, pourquoi a-t-on besoin de cette notion? Là, je défends un peu le cadre d'analyse. Eh bien, parce que, au lieu d'approcher l'économie avec où il y a des courbes d'offres et des courbes de demandes, on aborde l'économie avec une dynamique un peu globale, à la smithienne, où on a des genèses de quelque chose qui s'appelle les gains de productivité, hein, à la définition près, et avec des redistributions. Et donc, on adosse, et c'est ça qui est important, on adosse, hein, une schématisation des régimes de croissance, la définition, c'est une schématisation de l'obtention des gains de productivité aux modalités de leur distribution. Et on adosse ça à quoi? À un cadre politique, un tissu institutionnel et des formes d'organisation. Et je ne l'ai pas donné dans n'importe quel ordre. On voit bien dans le débat keynésien, le cadre politique, c'est la légitimation d'intervention publique, c'est ce qu'on appelle les conventions keynésiennes. Le tissu institutionnel, c'est tout ce développement d'un cadre institutionnel à une période historique donnée, mais c'est aussi et surtout l'évolution de ce cadre institutionnel, certains points particuliers qui sont en définis comme un espèce de champ légitime des transformations. Et des formes d'organisation qui sont une légitimation des formes que peuvent prendre l'organisation. L'organisation scientifique du travail, ça peut aller relativement loin, ça peut prendre des formes bizarres. Ce qui est intéressant, c'est de suivre les formes permises dans certains pays à différents moments, courbe sur la diffusion de ces phénomènes d'organisation que je ne vous ai pas amené, mais on peut parler sur, par exemple, l'organisation de la grande entreprise. Alors, je continue. Finalement, j'ai surtout élargi, ne vous inquiétez pas, j'ai surtout élargi le paragraphe 1. On passera très vite sur les suivants, parce que nombre d'entre vous sont très contents de me retrouver en bonne compagnie. Donc, je vais laisser bien tout ça. Donc, ces trois niveaux de détermination, des modalités de genèse et de répartition des gains de productivité, sont pour nous consubstantiels que j'aurai pour cette condition de réalisme. Et la question posée est donc celle de la redéfinition des gains de productivité, plus que celle de leur disparition comme catégorie d'analyse. Et ça va passer par une certaine lecture de l'articulation micro-macro. Alors, même en retenant cette définition, hein, historiquement située, de la productivité, les lectures de la période contemporaine post-fordiste peuvent varier. Ils peuvent encore relativement ouverts. Et ils varient d'autant plus que l'on sélectionne son horizon temporel. À court terme, la financiarisation est un fait, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne débouche pas sur un régime ayant une quelconque... C'est un type des rapports internationaux, je reviendrai un peu en conclusion et dans la discussion, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier ces arbitrages majeurs. Mais Alors, je ne me trompe pas. Voilà. Sur les horizons temporels. À court terme, la financiarisation est l'élément dominant. Alors, la financiarisation, c'était les revenus, hein, dans son dernier ouvrage avec Reber Youn. À très long terme, on peut, à contrario, voir s'affirmer des tendances longues anthropogénétiques de nos... Et je dirais que ce seraient des tendances presque dans lesquelles s'inscrivent directement Dominique et Jean. Hein, quand, c'est dans des tendances où on validerait complètement une comptabilité de patrimoine social, de patrimoine naturel. Mais je pense que c'est un horizon peut-être trop lointain pour moi. Et si je veux être, si je veux tenir à mon pari réaliste, je retiens quelque chose qui est plus à moyen terme, qui va regarder un peu plus ce qui se passe dans les conventions qui s'établissent à moyen terme sur ces, ces repérages, ces arbitrages entre agents, et des formes de concurrence, pris au sens très large, hein, comme lieu de conflit où s'affirment de nouveaux droits et devoirs de citoyens. C'est-à-dire que je vais relire ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va rentrer dans le débat politique? Et il y en a qui rentrent dans le débat politique. Le discours de l'écologie est un discours qui fait effectivement bouger pas mal tout ça. Les ayants droit, il y a une juridicisation de ces rapports, je vais passer très vite sur tout ça, mais il y a une évolution de la frontière du droit, hein, qui est manifestement appartient à ce type de transformation et qui va constituer de prise en compte de ce que tu voulais sur le patrimoine. Pas tant le patrimoine que de prendre en compte ce que sera une norme de production. Il y a une espèce d'évolution là qui est tout à fait intéressante. Et alors, c'est ce que ces déplacements passent par de nouvelles conventions et par l'internalisation de certaines externalités. Alors là, je voudrais ajouter quelque chose qui, à mon avis, est ce qui me rapproche le plus de ce que font nos amis du Matisse. Hein. C'est-à-dire que toute cette bagarre là, sur l'internalisation de certaines externalités passe beaucoup effectivement par le rôle tout à fait important dans ces recompositions. Il y a une espèce de légitimation, il y a un discours, il faut apporter en quelque sorte la preuve de la cause, ou la preuve de on le voit bien sur, bon, encore une fois, l'écologie, l'impact des consommations, etc. Hein, qui est toujours en train de lancer de nouvelles initiatives, lance le principe de la class action en France. C'est bien un bout de cette frontière qui se déplace, qui fait que les travaux que tu peux souligner, ou que vous pouvez souligner dans les travaux, sont des choses qui vont avoir en quelque sorte force de réglementation et qui seront pris dans les bilans. Et qui seront pris de même que, comme tu l'as pris en compte ou souligné très justement, on voit apparaître, il faut être assez modeste, hein, mais une partie des bilans sociaux dans le goodwill des entreprises. Hein, parce qu'il y a toujours cette contradiction et plus de court terme. Et dans ces choix, et là, les règles et les conflits ou les arbitrages ou les bagarres vraiment politiques déplacent le curseur. Alors, ce que je voulais souligner, qui me semble aussi une caractéristique importante du régime qui se met en place, et là, on ne sait pas où ça va s'arrêter ou autre, c'est l'importance de ce vecteur d'essence et information est aussi à la source de nouvelles inégalités. De nouvelles inégalités que... tant que l'espace de revendication politique n'a pas explicitement entrepris une certaine prise en charge de la correction de ces inégalités. C'est-à-dire que nos sociétés, curieusement, se retrouvent, et c'est ce qui a motivé les Sharpe et autres, se retrouvent dans des situations où, malgré ces améliorations du PIB, les individus ont l'impression que ça va plus mal pour eux, parce qu'il y a manifestement des inégalités objectives. Il y a ce que Storper appelait... la qualification du construction des nouvelles technologies. Le cas emblématique de cette discussion, ça a été l'appréciation, et là on est carrément dans le domaine ou dans le champ des comptables nationaux, l'appréciation des services bancaires. Il est évident que selon le patrimoine que vous avez, patrimoine financier, patrimoine culturel, l'appréciation...